Bonjour à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Élise Leu. Aujourd'hui, on brave le froid et Amazon et on descend faire nos courses de Noël au coin de la rue.
Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
Sans doute connaissez-vous le Black Friday, inventé aux États-Unis et arrivé en France il y a quelques années déjà. Mais connaissez-vous la fête des célibataires? En Chine, cette gigantesque opération de soldes, créée par le géant Alibaba, provoque chaque année une frénésie d'achats en ligne. Le 11 novembre dernier, les Chinois ont dépensé 1 milliard de dollars en seulement 68 secondes, c'est un record. Un événement qui illustre la montée en puissance du e-commerce, dominé par une poignée de plateformes dans le monde. Face à elle, les acteurs traditionnels du secteur s'inquiètent et dans les centres-villes, les boutiques dépérissent. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure consumériste d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des nouveaux commerçants en compagnie du sociologue Patrice Flichy, professeur à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, et de Jean-Rémy Gratadour, directeur exécutif du Centre IDEA HEC Paris. À 14h50, on retrouve le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Patrice Flichy et Jean-Rémy Gratadour, bonjour.
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 Et d'abord, fuyons le vacarme de la ville.
Bon, ça sera tout. Je suis toute seule.
Non, mais c'est pas possible. Hein. Moi, je peux pas venir jusqu'ici pour 3 tomates, quoi. Faut prendre plus que ça, sinon c'est pas rentable, madame. Comprenez, quand même.
Vous passez bien par la chapelle du Bois des Pets.
Ouais.
Vous pourriez me rendre un petit service.
Quoi?
Et faire une petite prière pour moi.
Bien sûr. Je suis pas curé, madame. Je suis pissier, bon sens, c'est pas possible.
Le curé, c'est un ivrogne. Ma prière, elle va arriver toute tordue.
Une prière, c'est 5 euros. Hein? Bah ouais, c'est comme ça.
Et avec les tomates?
Ah non, avec les tomates, c'est 5,50.
Merci.
5,50 pour la prière, plus les tomates, extrait du fils de l'épicier à Déric Guirado. Antoine, 30 ans, se retrouve obligé d'aider sa mère à tenir l'épicerie familiale à la campagne lorsque son père tombe malade. Le commerce de proximité, Patrice Flichy, voilà un modèle que tous voudraient voir perdurer, mais qui connaît de plus en plus de difficultés.
Oui, mais pas uniquement à cause du numérique. Hein. D'abord parce que effectivement la population s'est déplacée, hein, a quitté ces petits villages pour partir en ville. Hein. Et donc effectivement de toute façon les transformations très fortes de l'urbanisme ne peuvent que transformer fondamentalement l'organisation du commerce.
Alors il y a le poids de l'urbanisme et le poids du commerce électronique. Quel serait les commerces physiques les plus menacés par la concurrence des géants de la distribution en ligne, Jean-Rémy Gratadour?
Alors c'est tout d'abord tous les commerces qui concernent des produits de consommation courante et qui sont, on va dire, très comparables du point de vue des prix, puisque le e-commerce a, dès le départ, repris à son compte la promesse qui était celle de la grande distribution d'avoir le plus grand choix et d'avoir les meilleurs prix. Donc dès lors qu'il y a une comparabilité possible des prix, on peut dire qu'on a face à nous un produit menacé. Inversement, quand on parle de produits d'alimentation, où là il y a une dimension qualitative, une dimension aussi d'exploitation de proximité qui rentre en ligne de compte, là on va dire on est sur un type de commerce moins directement menacé, où les acteurs locaux peuvent encore s'organiser, peuvent encore trouver des nouveaux circuits pour exister et continuer à se développer. Et c'est certainement ce qui explique pourquoi le commerce bio, de façon générale, se développe alors même qu'on pourrait croire qu'il va être victime de la même concurrence que les autres produits.
Alors on va revenir à toutes ces questions que vous soulevez ici, Jean-Rémy Gratadour, mais j'aimerais savoir quelle est la réalité de la destruction d'emplois liée à cette explosion du commerce électronique. Selon Mounir Marjoubi, qui est député LREM du 19e arrondissement de Paris et qui est ancien secrétaire d'État au numérique, Amazon détruirait en France 2 fois plus d'emplois qu'il n'en crée. Est-ce qu'il a raison de dire cela, Jean-Rémy Gratadour?
Alors, certainement, sur certains secteurs d'activité, il y a une destruction d'emploi, ou plus exactement, changement d'emploi. De façon générale, désigner tel ou tel acteur comme responsable d'une destruction de l'emploi est toujours un petit peu sujet à caution. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une modification en profondeur de la nature même de l'activité commerciale, et les commerçants eux-mêmes doivent évoluer et changer le type de service qu'ils rendent aux clients, qui vient avec de nouvelles demandes, de nouvelles attentes. Et vous savez que le commerce a ce talent inouï de pouvoir se réinventer sans arrêt. Et une des raisons et un des moyens pour l'emploi de se renouveler et de résister contre cette menace, et précisément de se réinventer continuellement.
Et s'il y en a un qui semble avoir compris les attentes des consommateurs, c'est Jack Ma, le patron d'Alibaba.
J'ai fait remarquer à mon équipe, regardez, en 15 ans, on est parti de rien et on a atteint cette taille. Alors, d'ici les 15 prochaines années, je voudrais que tout le monde connaisse Alibaba, parce que nous serons partout. Il y a 15 ans, on se demandait ce qu'était le e-commerce, comment les petites entreprises pouvaient s'en servir, comment elles pouvaient utiliser Internet pour vendre d'un bout à l'autre du pays. Eh bien, j'espère que dans 15 ans, les gens ne penseront plus au e-commerce en tant que tel. Aujourd'hui, plus personne ne perçoit l'électricité comme un système high-tech. Eh bien, dans 15 ans, je ne veux plus qu'on marche dans la rue en se demandant comment le e-commerce peut aider les gens.
L'ex-patron d'Alibaba, Jack Ma, il a passé la main au mois de septembre. Alibaba qui est devenu, il y a 2 ans, le premier distributeur mondial de produits de consommation. Patrice Flichy, le e-commerce pourrait devenir aussi naturel pour nous que l'électricité, comme le dit ici Jack Ma.
Oui, avec la différence que l'électricité est un service public de base, hein, un service universel de base qui offre ensuite de nombreuses activités. L'e-commerce est effectivement, à mon avis, pas de la même nature. Je crois que ce qui est très impressionnant quand on entend ce discours de l'ancien patron d'Alibaba, c'est comment, dans ce domaine de l'e-commerce, se crée extrêmement rapidement des sociétés mondiales de taille considérable. Et donc, on aurait pu penser, hein, quand Internet se met en place, que le numérique offre toute une série de possibilités, qu'on puisse monter des unités d'échange entre l'offre et la demande à un niveau local. On pourrait, je sais pas, prendre l'exemple des livraisons à bicyclette, par exemple. Hein. Il y a eu un certain nombre de tentatives intéressantes, de coopératives, hein, de livreurs qui s'appuient sur des plateformes de logiciels libres, et ces plateformes locales, finalement, périclitent très très rapidement.
Oui, alors donc on est dans une explique cette concentration du secteur avec des géants comme Amazon ou Alibaba.
Probablement par 2 points. Je crois qu'il y a des investissements logiciels sur les plateformes, sur la construction des algorithmes qui sont extrêmement puissants, hein, qu'on évalue d'ailleurs assez mal. Hein. Et puis il y a des investissements marketing, hein, considérables. Hein. On voit bien Uber aujourd'hui dans le domaine des VTC, la nouvelle plateforme européenne Captain, hein, qui se lance dans une campagne promotionnelle considérable.
Jean-Rémy Gratadour, sur cette concentration du secteur du e-commerce.
Alors la concentration, elle est liée à un phénomène qui est décrit par les économistes comme étant la loi de Metcalf. Et la loi de Metcalf dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle à celui du carré de ses utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, plus le réseau va être utile. Et quand on est face au e-commerce, on est face à un commerce de réseau. Et bien évidemment, son utilité croît au fur et à mesure que les utilisateurs...
Plus il y a de vendeurs et plus il y a de clients, mieux ça marche.
Et plus l'utilisation et la valeur ajoutée de ce commerce en réseau augmente. Et par-delà ce principe qu'on retrouve dans de nombreux domaines techniques en réseau, il y a un phénomène de concentration qui est lié aux critères d'adoption par les utilisateurs de nouveaux comportements d'achat. Et ce sont les critères de confiance. On doit avoir confiance dans les dispositifs de paiement. On doit avoir confiance dans la capacité de l'acteur, du commerçant à vous livrer le produit que vous avez acheté ou à vous.
Et pourquoi on aurait plus confiance en Alibaba ou en Amazon qu'en d'autres plateformes ?
Parce que ces plateformes créent de la confiance. C'est-à-dire que leur premier axe de développement, c'est de créer de la confiance. Par exemple, quand on parle de Google, on dit Google est un moteur de recherche. Mais non, Google n'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur de trouvailles. Et précisément parce qu'il vous apporte la réponse à la question que vous cherchez, vous allez adopter un comportement de recherche sur ce moteur plutôt qu'un autre. Et pour un concurrent, ce sera très difficile de venir le remplacer parce qu'il aura créé ce lien de confiance avec l'utilisateur final.
Mais alors comment on crée ce lien de confiance ? Et est-ce que c'est ça qui explique le succès par exemple d'Alibaba qui gère, je crois, la moitié de la vente en ligne en Chine ?
Alors le cas d'Alibaba est un petit peu particulier parce qu'historiquement c'est un acteur qui s'est développé dans ce qu'on appelle le commerce B2B, c'est-à-dire entre entreprises. Au départ, Alibaba était une plateforme où des vendeurs vendaient à d'autres professionnels et ne proposaient pas de transactions en ligne, c'était de la négociation. On trouvait un produit, on appelait et on négociait et on achetait le produit. Puis dans un deuxième temps, Alibaba a créé un autre service qui s'appelle Taobao, qui est une plateforme de vente aux particuliers, et donc est allé sur le commerce, donc dit B2C, au client final. Et là, on voit bien que, d'une certaine manière, on a eu un développement économique qui est parti du B2B pour aller vers le B2C, là où Amazon, au départ, est parti du commerce auprès du client final, et aujourd'hui tente, sur certains secteurs, d'aller vers le commerce auprès des professionnels, notamment sur tous les services d'hébergement ou d'autres services sur lesquels il excelle.
Mais c'est important cette distinction que vous faites ici, en effet, Jean-Rémy Gratadour, entre le commerce entre entreprises et les transactions d'une entreprise à un particulier. C'est encore le commerce entre entreprises qui est dominant dans ce commerce en ligne. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que c'est les transactions vers les particuliers qui connaissent la croissance la plus rapide.
Alors, là où il y a un phénomène intéressant, c'est qu'il y a un peu un modèle occidental du développement du e-commerce qui s'est développé par le commerce au particulier, puis un modèle asiatique qui s'est développé plus à travers le commerce entre entreprises. Dans le cadre du commerce occidental, c'est vrai que la quête première des grands acteurs a été d'avoir la plus large audience et de fidéliser le plus grand nombre possible de clients. Et de fidéliser tout en conservant une bonne connaissance de leur comportement en ligne, de leur comportement de consommation, puisque le premier principe de développement de ces acteurs, c'est de pouvoir anticiper les comportements de consommation des clients pour pouvoir proposer au bon moment le bon produit correspondant à la demande du client. Et pour faire cela, ces acteurs ont énormément capitalisé sur la donnée. Et on en parle aujourd'hui beaucoup puisqu'elle est devenue centrale dans les critères de compétitivité des entreprises. Mais on voit bien que ces acteurs-là ont capitalisé très tôt sur ces données, ont développé un savoir-faire algorithmique très tôt et aujourd'hui l'utilisent, l'exploitent et ont une longueur d'avance sur bien d'autres acteurs.
Mais il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre, c'est-à-dire commencer par vendre aux entreprises ou commencer par vendre aux particuliers. Dans tous les cas, on a eu du côté des États-Unis l'émergence d'Amazon, du côté de la Chine l'émergence d'Alibaba, et dans les deux cas, ils font presque 200 000 milliards de dollars de bénéfices.
Alors l'explication est un petit peu différente. En fait, l'explication vient du fait que en Occident, le e-commerce n'est pas né de rien. Il est né dans le prolongement du commerce à distance, de la vente à distance, qui a été inventé dès le 19e siècle et qui, au début des années 90, au milieu des années 90, quand le e-commerce a commencé, était déjà bien installé. C'était en France des enseignes très connues, qui étaient des grandes entreprises. Et ce commerce s'était développé sur la fiabilité des réseaux de distribution. Et le commerce B2C, le commerce au particulier, qui s'est développé aux États-Unis ou en Europe, a dû son succès grâce à la fiabilité de ces réseaux de distribution physique. Inversement, en Asie, il y avait beaucoup moins de fiabilité sur ces réseaux de distribution. Et par conséquent, les premiers leviers de développement de ces entreprises, c'était les échanges, la négociation entre entreprises. Et c'est ce qui explique qu'ils ont commencé par là.
Sur les chiffres d'affaires, je disais 200 milliards. C'est cela, le chiffre d'affaires environ.
environ d'Amazon, si on compte son chiffre d'affaires mondial. On est dans cet ordre d'idées, Jean-Rémy Gratado.
Tout à fait. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de voir les grandes masses par zone géographique. Donc, typiquement, la France représente à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'Europe, c'est à peu près 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec cette particularité.
Donc ça, c'est tout le commerce électronique.
Tout le commerce électronique. Mmh. Avec cette particularité que trois pays, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, constituent 70% de ce chiffre d'affaires. Et puis la Chine, c'est déjà presque plus de 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dépassé le chiffre d'affaires total du e-commerce aux États-Unis. Donc on voit que les trois grandes zones économiques, on va dire, sont aujourd'hui sur le même type d'ordre de grandeur, mais c'est la zone asiatique qui croît le plus vite.
Et alors, qui sont ces acheteurs en ligne, Patrice Flichy? Sans surprise, ce sont en tout premier lieu les 25-34 ans, et puis seulement en second lieu les 35-44 ans. On est sur des internautes d'âge moyen, si je puis dire.
D'âge moyen, non, probablement. Enfin, je dirais comme dans toute l'utilisation d'Internet, hein, le facteur âge est effectivement un facteur important. Hein. Et donc, c'est clair qu'on va se retrouver avec des pratiques hein, qui sont très liées aux pratiques générales du numérique. Hein.
Alors, ce qu'on voit, c'est que le commerce en ligne semble attiser la concurrence entre les producteurs. Est-ce que cela, et le fait aussi qu'en tant que consommateur, en tant que client, on peut comparer sur une plateforme de vente en ligne les meilleurs prix? Est-ce que, à la fin, c'est le consommateur qui gagne, Jean-Rémy Gratado? Est-ce que les prix sont moins importants sur ces plateformes?
Alors c'est vrai que la comparabilité des prix permet d'avoir tous les produits finalement à un clic. Donc le consommateur a vite fait comprendre son intérêt à comparer. Et parmi les outils qui ont été proposés très tôt, il y a eu les moteurs de recherche de comparabilité de prix. Et effectivement, très rapidement, on a vu que le consommateur final avait des gains de pouvoir d'achat finalement grâce à cette comparabilité de prix, ce qui exacerbe la concurrence entre les acteurs et entre les plateformes.
Et en même temps, si l'on en croit le journaliste tech américain Chris Anderson, la digitalisation du commerce aurait permis de créer une certaine équité entre les producteurs. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, Jean-Rémy Gratado? C'est-à-dire finalement, tout le monde peut vendre sur Internet et cela offre à n'importe quel artisan commerçant un marché gigantesque.
Alors ça, c'est effectivement un phénomène très intéressant du e-commerce. Dès le départ, la promesse du e-commerce a été de permettre à des petits producteurs d'accéder au commerce mondial, pour caricaturer. Alors cette promesse, elle a fait long feu, puisque très rapidement, on a vu ce phénomène de concentration dont on parlait juste avant de se mettre en place, et finalement, les grands acteurs tiraient leur épingle du jeu. Mais ce qu'on constate aussi aujourd'hui est que si vous êtes une jeune entreprise, si vous êtes une start-up, vous allez créer un produit et plutôt que chercher à faire distribuer votre produit dans les réseaux traditionnels de la distribution, vous allez finalement utiliser tous les leviers du marketing digital et de la distribution digitale pour commencer à distribuer votre produit. Alors vous allez bien sûr le distribuer d'abord dans votre pays et puis très rapidement vous allez vouloir le distribuer en Europe, vous allez vouloir le distribuer dans tous les pays du monde et vous allez avoir un savoir-faire et une connaissance et une capacité à améliorer votre produit grâce à ça et sans à aucun moment passer par des réseaux de distribution traditionnelles. Et ce n'est que dans un deuxième temps, une fois que vous aurez atteint un certain niveau de développement, que vous allez commencer à vous dire « Ah bah finalement, pour atteindre le marché de masse, les réseaux de la grande distribution, c'est quand même très bien, mais maintenant je suis en position de force pour discuter et je vais trouver un moyen, une configuration pour être présent dans les réseaux de grande distribution. » Et très souvent, ce sont des fabricants qui utilisent par exemple des pop-up stores. Vous savez, ce sont des petits magasins à l'intérieur de grands magasins, des formats qui se développent de plus en plus, que vous pouvez rencontrer quand vous faites les magasins, et en particulier les grands magasins. Et on voit bien que c'est une nouvelle manière finalement de créer, de développer un produit et qui correspond très très bien à l'époque d'Internet.
Alors on l'a dit, Amazon, Alibaba et d'autres ont réussi à créer ces places de marché en comprenant notamment les désirs, les attentes des consommateurs. Mais ces géants de la distribution en ligne sont aussi épinglés pour les conditions de travail qu'ils imposent. Dans son dernier film, Sorry We Missed You, Ken Loach retrace la descente aux enfers de Ricky, un livreur qui s'endette pour acheter son propre camion. Dans l'extrait que l'on va entendre, le manager de l'entrepôt, lui reproche d'avoir emmené sa fille dans sa tournée. Ricky réalise alors que non seulement il ne bénéficie pas de la protection du salariat, mais qu'il ne profite pas non plus de la liberté des indépendants. Écoutez.
There you go.
Everything okay, Ricky?
Yeah, it's great.
Any problems?
No, nothing.
It's all right, Ricky. It's nothing to worry about. Hitting your figures and getting good feedback. Everything's going all right. Just, did you have somebody in the van with you on Saturday gone?
Oh, yeah, it's my daughter, Liza Jane, right?
Sorry, mate, we can't have that.
Well, it's my van. My insurance, my daughter. I thought it was my business.
Yeah, it is. But it's our franchise, right? Just had a complaint from one of the clients. Nobody fucks with them ever, mate, all right? It's just one of the first commandments, all right? Cheers.
C'est mon camion, mon assurance, ma fille. Je pensais que c'était mon business, dit Ricky. Oui, mais c'est notre franchise, lui répond le manager. Que vous inspire cet extrait, Patrice Flichy?
Incontestablement, on s'aperçoit que ces indépendants sont des indépendants dépendants. Hein. Alors, effectivement, je crois qu'il y a un peu deux types de plateformes. Hein. Il y a des plateformes où les indépendants ont une assez grande autonomie, hein, parce que la plateforme est avant tout là pour faire du matching, finalement, entre une offre et une demande, où l'indépendant peut fixer son prix. On a deux cas de plateformes de ce type. La plateforme Etsy, hein, où on peut proposer des objets artisanaux, et à ce moment-là, on fixe... On choisit l'objet qu'on va présenter et on choisit le prix. Et puis, vous avez des plateformes qui cadrent beaucoup plus l'activité. C'est le cas des VTC, hein, d'Uber. Hein. C'est un petit peu ça qu'on peut faire référence dans le film. Hein, ou des livreurs à vélo. Hein. Alors, dans ce cas, il n'y a aucun choix. C'est la plateforme hein, qui attribue à l'indépendant qui offre ses services un client et qui fixe le prix. Mais même dans le premier cas, c'est ça qui est intéressant, on voit le rôle central des algorithmes, c'est que finalement, l'indépendant est relativement dépendant parce que l'algorithme va hiérarchiser les offres. Hein.
Et, selon qu'il est plus ou moins disponible, par exemple, pour travailler.
Alors, bien sûr, mais ça va de soi. Je veux dire, si on est conducteur de VTC, on va proposer votre véhicule quand vous êtes dedans et quand vous êtes.
Non, mais selon que vous êtes disponible plus régulièrement, c'est ça que je veux
oui,
dire.
Oui, bien sûr. Alors, on a ça, par exemple, sur Airbnb. On s'aperçoit que les offreurs professionnels, qui d'une certaine façon ont transformé la plateforme, parce que l'idée de la plateforme, c'est que je pars en vacances, je loue mon appartement. Eh bien, les offreurs professionnels vont être mieux placés que les offreurs secondaires, tout simplement parce que la plateforme a intérêt à mettre en avant hein, des gens qui ont une offre importante. De même sur Etsy, si vous faites des objets d'artisanat, si vous en faites très peu, vous allez vous trouver en queue de liste.
Mmh. Mais on peut se demander du coup si ce modèle de la plateforme, s'il n'est pas justement compétitif parce qu'il a un fonctionnement qui est celui-ci et qui est un fonctionnement de non-salariés, Jean-Rémy Gratadour.
Oui, alors les plateformes ont ce talent au tout départ d'adresser une demande orpheline. Alors une demande orpheline, c'est quoi? C'est typiquement un comportement qui préexistait et tout d'un coup qui va être rationalisé par une plateforme. Alors dans le cas de Airbnb, c'est tout simplement un phénomène qui était déjà connu de sous-louer une pièce, de sous-louer une maison pendant une période de vacances. Et le pouvoir de la plateforme est de mutualiser suffisamment d'offreurs et suffisamment de demandeurs pour passer un palier et arriver à industrialiser cette demande orpheline et en faire un business. On connaît par exemple en France Blablacar, qui est devenu un service bien connu, surtout par ces périodes de grève des transports. Blablacar, qu'est-ce que c'est finalement? C'est l'industrialisation du stop. Et on a, grâce à la patience des fondateurs de cette entreprise, qui ont eu la patience d'attendre suffisamment d'années pour atteindre le nombre d'offreurs de transport et le nombre de demandeurs, passer un palier et ils ont pu industrialiser cette demande. Donc on voit bien que le secret des plateformes, c'est précisément d'arriver à identifier quelque chose qui auparavant était de l'ordre d'un comportement d'individu de gré à gré et en faire un véritable business. Et puis aussi, tout simplement, de répondre à une période historique où, après la crise de 2008, il y a eu un appel d'air pour trouver des petits boulots pour compléter ses revenus. Et c'est vrai que l'explosion des grandes plateformes de travail date d'après.
Mais ces petits boulots, précisément, ils sont de plus en plus contestés. En juillet dernier, il y a des milliers de salariés d'Amazon, en l'occurrence, qui se sont mobilisés en Europe et aux États-Unis à l'occasion du Prime Day, qui est une journée de super promotion. Ce qu'on voit en ce moment, Jean-Rémy Gratatour, Patrice Clichy, pardon, c'est une plus grande médiatisation des conditions de travail de ces salariés ou non salariés, justement. Et on voit peut-être une résistance s'organiser.
On voit une résistance s'organiser, je dirais d'autant plus que l'informatique encadre extrêmement profondément le travail. Finalement, dans ces immenses entrepôts type Amazon, on retrouve finalement dans le domaine des services un prolétariat qui ressemble beaucoup au prolétariat des usines d'autrefois. Si à l'origine, finalement, la personne qui était chargée d'aller chercher les objets dans les rayons avait une certaine autonomie et pouvait, en fonction de sa connaissance, finalement, de l'espace, s'organiser comme elle le voulait, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et avec des systèmes de casques, les gens sont complètement dépendants de la plateforme qui leur indique l'objet à aller chercher. Une fois qu'ils ont pris l'objet, ils doivent le confirmer. On trouve la même chose avec les livreurs, parce que l'autre volet de ces plateformes, c'est non seulement d'aller chercher la marchandise, de l'expédier, c'est aussi la livraison. Et la livraison, toutes les entreprises de livraison, y compris la Poste, aujourd'hui ont tendance à organiser la livraison. Donc un des éléments d'autonomie du livreur autrefois, c'est d'organiser sa tournée, comme il le souhaitait, de pouvoir emmener sa fille en tournée s'il le souhaitait. Eh bien, cette autonomie est perdue. Elle est complètement organisée par la plateforme.
Un rythme parfois effréné dans les entrepôts qui est peut-être aussi causé par les exigences croissantes des consommateurs qui veulent être livrés de plus en plus vite. On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Personality. It's not here.
Lost in the Supermarket, des Clash sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Patrice Flichy et Jean-Rémy Gratadour sont toujours avec nous pour parler de la révolution du e-commerce. Alors qu'est-ce que la vente en ligne a changé aux pratiques du commerce? Allons voir d'abord du côté des commerçants eux-mêmes. Est-ce qu'il a fallu, Patrice Flichy, remplacer finalement le lien social par ce qu'on appelle désormais l'expérience consommateur, cette idée de répondre de façon ciblée aux attentes des clients, mais cette fois sur Internet?
Oui, je crois qu'on a deux types d'activités de commerce qui sont extrêmement différentes. Hein. Je dirais, on a traditionnellement la construction d'un lien personnel de confiance et on a la construction d'un lien algorithmique. Hein, c'était évoqué tout à l'heure. Hein, je dirais une des formes de essentielles de ces plateformes, hein, c'est à travers une analyse des traces laissées par le consommateur, hein, de pouvoir prédire sa consommation. Et je dirais, ça c'est un algorithme. Autrefois, le commerçant traditionnel, hein, cette épicière qui était évoquée au début de l'émission, hein, qui vendait des tomates, bon, connaissait son consommateur, savait. Mais je dirais, cette connaissance était extrêmement, extrêmement restreinte. Hein, tandis que là, on a, à travers, je dirais, ces grandes bases de données et les algorithmes qui les traitent, une connaissance probablement beaucoup plus profonde et beaucoup plus intime de l'activité du consommateur.
Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de ces plateformes, Jean-Rémy Gratadour, de mettre en récit cette offre aux consommateurs afin justement de raconter une histoire autour du produit que l'on veut vendre, comme pour remplacer précisément ce qui peut se passer dans une expérience sociale dans un magasin physique?
Alors, tout à fait. Le e-commerce aujourd'hui excelle dans la capacité à magnifier les produits, à les mettre en scène, à les mettre en vidéo et à trouver énormément de leviers finalement qui vont se substituer à la frustration de ne pas pouvoir toucher le produit. Donc on voit bien que une véritable amélioration de cette mise en scène du produit.
Et ça passe notamment beaucoup par les réseaux sociaux.
Alors aujourd'hui, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, avec cette idée absolument machiavélique, du point de vue commercial, d'associer les clients et d'en faire les ambassadeurs de votre marque et des ambassadeurs zélés qui partagent, échangent, diffusent, dès lors qu'ils sont contents du produit qu'ils viennent de consommer, avec leurs meilleurs amis, et ainsi à créer une espèce de visibilité publicitaire des produits sans passer par les techniques de publicitaires traditionnelles.
Le consommateur content va se mettre en scène avec sa nouvelle montre, son nouveau portable,
exactement,
sur Instagram ou sur Facebook.
Exactement, ils vont même rivaliser entre eux. Alors, parfois même pour les influenceurs, puisqu'on les appelle ainsi, pour avoir, on va dire, des relations de partenariat avec certaines de ces marques, il va y avoir une concurrence entre ces influenceurs pour mettre en valeur et créer de la visibilité sur ces produits. Donc, d'une certaine manière, on est un peu dans un rêve de fabricant, là, où tout d'un coup, vos clients...
Qui réussit à sous-traiter ainsi à la publicité à ses propres clients.
Ce qu'on appelait traditionnellement le bouche-à-oreille, qui était vraiment presque au niveau familial, au niveau local, devient en réseau et on est sur un bouche-à-oreille énorme. Mais une des grandes particularités, je crois, aussi de ce qui est en train de se passer... C'est que, vous voyez bien, il y a une énorme complexité aujourd'hui des schémas de distribution, puisque vous pouvez rechercher un produit sur Internet, aller en magasin, comparer son prix avec votre téléphone mobile, revenir chez vous, l'acheter sur un autre site ou l'acheter dans un autre magasin, etc. Le parcours client, ce que les commerçants appellent le parcours client et les points de contact avec le client, se sont démultipliés. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cross-canal, c'est-à-dire cette capacité à gérer plusieurs canaux en même temps. Et seule la puissance algorithmique aujourd'hui permet d'avoir une intelligence du parcours de ses clients entre ces canaux et donc d'amener la proposition au client final au bon moment.
Alors justement, sur cette idée du multicanal, je vous propose d'écouter Marc L'Olivier, directeur général de la Fédération e-commerce et vente à distance.
ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le multicanal, c'est-à-dire à la fois des acteurs pure players qui ont longtemps dominé le marché français hein, pendant une dizaine d'années. C'était eux qui tenaient un petit peu le haut du pavé. Et puis des magasins qui progressivement se sont numérisés, se sont digitalisés et aujourd'hui offrent ce canal Internet un peu comme un service qui est offert aux clients et qui permet effectivement de rester en contact 24 heures sur 24, qui vient compléter l'offre de canal traditionnel. Donc on est vraiment vers, aujourd'hui, il y a une poussée très forte de la part des magasins parce qu'il y a une demande forte des clients de pouvoir justement choisir entre le magasin et Internet. C'est pour ça que nous, on a publié il y a en 2010 une étude qui s'appelle 2020, la fin du e-commerce, parce qu'on pense que le e-commerce est en train de se diffuser à l'ensemble des commerçants et finalement, ça fait partie intégrante du commerce.
Les acteurs ont tous intérêt, Jean-Rémy Gratadour, à miser sur la complémentarité entre magasins physiques et ventes en ligne, et c'est déjà un peu ce qui se passe.
Oui, c'est déjà un petit peu ce qui se passe, et cette idée évoquée par Marc L'Olivier de dissolution d'une certaine manière du digital dans le commerce sous toutes ses formes est un phénomène qu'on constate chaque année. Néanmoins, je crois qu'il y a un ressort propre au commerce digital, qui est un ressort qui permet à des nouveaux entrants de proposer des nouvelles offres. Et ça, c'est très important. Je disais au tout début que une grande force du commerce, c'est sa vitalité, cette capacité à sans arrêt se renouveler. Le commerce est obligatoirement amené à se réinventer continuellement. Et dès lors qu'on pense avoir atteint une certaine limite d'un type de commerce, eh bien finalement, il se réinvente et il se produit autrement. Alors on voit ce phénomène aujourd'hui dans la grande distribution. C'est passionnant de voir que les acteurs de la grande distribution, qui étaient quand même ce qu'on appellerait aujourd'hui des disrupteurs à la fin des années 60, au début des années 70, quand les premiers grands magasins, les premiers hyper se sont ouverts, avec une offre de produits très large, avec une capacité à avoir des prix très bas.
Aujourd'hui, ils s'allient avec des plateformes Carrefour avec Google et Tencent, Monoprix avec Amazon, Auchan avec Alibaba.
Exactement, et on voit ces deux formes de commerce dont on aurait pu croire au départ que tous les opposés, aujourd'hui se concentrer. Alors, qui prend le pas sur l'autre? Alors ça, c'est un grand débat.
Quel est le rapport de force qui s'installe?
Quel est le rapport de force? Est-ce que c'est un rapport de complémentarité, un rapport de force? Là, l'avenir le dira. Mais on voit bien que, encore une fois, le commerce est en train de se réinventer.
Et alors, on peut se demander, est-ce que ces bouleversements ont entraîné du côté des consommateurs? Est-ce que la consommation augmente grâce au développement du commerce en ligne? Et est-ce que cette consommation évolue, se fait différemment, Patrice Flichy?
Forcément, hein. Effectivement, il y a des consommations qui se transforment. Il y a aussi des consommations nouvelles qui apparaissent. Hein. Si je reviens sur ce qui est plutôt ma spécialité, hein, des plateformes type VTC par exemple, hein, on a beaucoup insisté sur la concurrence entre les taxis et les VTC. Mais quand on regarde les modes de consommation, on s'aperçoit que c'est pas du tout le même type de consommation. Traditionnellement, l'utilisation d'un taxi était une utilisation rare, hein, pour aller à la gare, pour aller à l'hôpital. Au contraire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les clients des VTC sont plutôt des jeunes urbains qui n'ont pas de véhicule et pour lesquels le VTC est l'instrument de la mobilité.
C'est le cas pour Airbnb aussi, ce n'est pas forcément une concurrence pour les hôtels, ça crée de nouvelles demandes.
Absolument, je dirais qu'on peut être que frappé par l'homogénéité du tissu hôtelier aujourd'hui. Hein. Tous les hôtels sont identiques d'un bout à l'autre de la planète. Hein. Et effectivement, il y avait une demande pour, un habitat de tourisme, je dirais, plus lié au lieu où le touriste passait son séjour. Donc, à chaque fois, hein, je dirais, on a effectivement des offres nouvelles qui correspondent à des demandes qui étaient mal assurées par les réseaux précédents.
On a interrogé des Français sur comment ils imaginent le mode de vie idéal. On a très vite l'image de la place du village, quoi, avec ces petits commerçants. La Miricorée, si vous vous souvenez de cette publicité, quoi. Voilà, donc, ou la force tranquille de Mitterrand. mais si possible très près de la métropole. Hein, quand on demande aux gens l'endroit idéal où ils aimeraient vivre, ils aimeraient quitter les métropoles où ils sont finalement contraints de vivre pour travailler, pour trouver une activité professionnelle, mais leur idéal serait de vivre dans un village permettant d'accéder malgré tout à toutes les aménités de la grande ville. C'est ce qui a le plus la cote auprès des consommateurs aujourd'hui, c'est le marché. Et le marché, vraiment, alors que sa fréquentation, en fait, même si elle est légèrement en croissance, reste très, très, très modeste. Mais c'est un imaginaire qui est très largement partagé dans la population. Pourquoi ? Parce que ça incarne la convivialité, la proximité, la tradition, hein, la fraîcheur, la naturalité des produits. Donc on est sur tous les mots-clés qui, aujourd'hui, portent la consommation. Mmh. Et le centre-ville et le commerce de proximité, c'est tendance, en quelque sorte, au moins dans les imaginaires, à défaut de l'être dans les comportements, parce que ça véhicule une sorte de nostalgie. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un marqueur de la crise de la modernité, d'une difficulté qu'ont les populations des pays occidentaux et de la France en particulier de se projeter dans un avenir qui soit perçu comme désirable.
L'économiste Philippe Moati, le désir du consommateur est marqué par l'ambivalence, Patrice Flichy, entre un imaginaire de proximité et une exigence de rapidité.
Oui, je crois que c'était bien dit par Moati. Je dirais... Ces nouvelles demandes hein, s'expriment de multiples façons.
On peut se demander si les commerces peuvent pas justement tirer parti de cette demande de local, de circuit court. Est-ce que c'est pas une manière pour eux, pour ces commerces physiques, de résister à la concurrence de plateformes?
Oui, avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, souvent la nécessité de s'allier avec des plateformes. Hein. C'est-à-dire que je crois que la difficulté des tentatives de reconstruire un commerce local montre que seules, elles ont effectivement beaucoup de mal à le faire. Hein. L'exemple du marché, du vieux marché, effectivement, au coin de la rue est un bon exemple de cela.
Et en même temps, la pollution induite par justement les livraisons Amazon. Alors, il y avait eu un rapport qui était sorti de la part des Amis de la Terre en particulier, qui expliquait à quel point il y avait une véritable pollution qui était entraînée par les livraisons. Et alors, sur cette question, est-ce que ça n'entraîne pas une certaine défiance des consommateurs, Jean-Rémy Gratadour, un certain rejet du modèle de consommation de masse que peut représenter par exemple Amazon ou Alibaba?
Alors, je ne sais pas si aujourd'hui la question de la décarbonisation du transport lié au e-commerce est un sujet de rejet du consommateur du e-commerce. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui il vit un petit peu dans l'âge d'or des débuts, un petit peu comme l'utilisation de nos téléphones mobiles. On est encore dans cette perception qu'elle n'est pas consommatrice, elle n'est pas génératrice d'émissions carbone, ce qui est faux, et on le sait désormais.
On a quand même entendu la ministre Elisabeth Borne dire que justement Amazon était responsable de pollution, d'un impact environnemental trop fort. On a entendu aussi un certain nombre de gens pointer du doigt le fait que les plateformes ne payent pas forcément leurs impôts en France. Enfin, il y a beaucoup de critiques qui sont en train de s'élever contre ces géants, Jean-Rémy Gratadour.
Tout à fait. Alors, toutes les questions qui sont réglementaires sont au cœur de la recevabilité de ce commerce compte tenu de la taille qu'il a pris. Pour simplement citer un chiffre, on est aujourd'hui autour de 10% du commerce de détail qui passe par le e-commerce. Historiquement, quand on était à l'époque de la vente à distance, on va dire dans les années 80, à la fin des années 80, on était à 3-4%. Donc vous voyez, finalement, en l'espace d'une génération, on a multiplié pratiquement par 3 la part du commerce de détail de cette nouvelle forme de commerce. Donc associé à cette nouvelle forme de commerce, il y a toutes les contraintes réglementaires.
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que la régulation est en retard aujourd'hui, et notamment une régulation internationale ?
La réglementation, généralement, suit un phénomène de société dès lors qu'il fait état d'un certain nombre d'effets pervers ou d'externalités négatives, pour reprendre une formule d'économiste. Et là, la régulation se saisit du problème en disant « bon, très bien, on vous a laissé finalement vous développer au début, on était dans une espèce de période de naïveté par rapport à ce que vous faisiez. On trouvait ça formidable, mais maintenant, bon, il faudrait quand même que vous pensiez à payer vos impôts localement, que vous nous expliquiez comment vous allez limiter vos émissions carbone, et surtout, parce que ça quand même, on est en Europe et ça, on y tient beaucoup, comment vous allez veiller scrupuleusement à ne pas user et abuser des données personnelles que vous accumulez et qui font qu'aujourd'hui, vous avez une connaissance des clients formidable, mais en même temps qui est sujette à caution.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine aussi, il y a une réglementation qui apparaît et qui se développe, pas seulement en Europe. Patrice Flichy, vous vouliez réagir ?
Oui, je pense que dans la réglementation, la question effectivement d'utilisation des données est centrale. Mais il y a aussi des choses qui sont moins évoquées, c'est que ces nouvelles formes de commerce peuvent remettre en cause, par exemple, une des bases de l'activité commerciale qui est l'universalité, hein, sur les plateformes type plateforme de VTC, hein, ou Airbnb, l'offreur peut refuser le client. Alors que, effectivement, depuis 70 ans, le commerce s'est construit sur l'idée que le commerçant ne peut pas refuser un client. Ou autre exemple, dans certaines activités de service, c'était mis en place des réglementations, des classements très sophistiqués. Par exemple, la location de gîtes, il y avait un système avec des épis, un épi, deux épis, trois épis, etc. Aujourd'hui, dans Airbnb, il n'y a plus aucun classement. Hein.
On voit bien que l'État a du mal à mettre son nez, si je puis dire, dans ces différentes plateformes. Et la question fiscale est essentielle. Je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu, puisque l'Inspection Générale des Finances vient de publier un rapport selon lequel 98% des vendeurs étrangers contrôlés sur ces sites Internet seraient en infraction. Il y aurait donc une fraude massive à la TVA en particulier. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Jean-Rémy Grattado ?
Alors là, c'est un cas très intéressant puisque ce que vient de pointer ce rapport, c'est un phénomène qui s'est développé très rapidement au cours des 10 dernières années avec l'achat par des clients situés par exemple en France de produits qui seraient vendus par des vendeurs situés par exemple en Asie. Et il y a une disposition réglementaire qui fait qu'il y a une franchise finalement lors d'envoi de produits à l'international, qui fait que je crois jusqu'à 22 euros, il n'y a pas de la TVA ne s'applique pas. Et finalement, il y a eu des abus qui ont été faits de cette réglementation, de la même manière qu'il y a eu une surutilisation de réseaux d'acheminement à travers les réseaux qui existaient, les réseaux postaux notamment, qui sont régulés, comme vous le savez, par l'Union Postale Universelle, qui est un organisme rattaché à l'ONU.
Pardon de vous interrompre, mais non seulement c'est un manque à gagner considérable pour l'État, mais aussi c'est une distorsion de la concurrence considérable, puisque ça permet à ces vendeurs de proposer des produits 20% moins chers, puisqu'ils ne payent pas la TVA.
Alors tout à fait, c'est bien là où on a besoin d'une réglementation juste de la part des États et de l'Europe également, pour veiller à ne pas créer de distorsion de concurrence de par cette nouvelle forme de mondialisation du commerce. Parce que quelque chose est finalement s'est développé sans qu'on le voit arriver, qui est que le e-commerce est devenu de plus en plus international. Et dans le cas précis, il est devenu même transcontinental. C'est-à-dire quelque chose qui était complètement inouï il y a encore une dizaine d'années est devenu une réalité pointée du doigt par Bercy.
Et ce que l'Europe veut faire, c'est de faire en sorte qu'à partir de 2021, les plateformes comme Amazon ou Cdiscount soient redevables de la TVA pour leurs vendeurs en ligne. Pour vous, c'est une bonne mesure, Jean-Rémy Grattado ?
Et oui, bien sûr, toute mesure qui oblige les acteurs à non seulement respecter la réglementation en vigueur dans le pays où elles opèrent et qui rétablit de l'équité dans l'accès au marché et par nature bonne. Alors, on n'est plus à l'époque où on peut se dire « oui, mais attention, on va freiner un développement formidable ». Là, on est vraiment rentré dans un marché de masse et où il faut veiller à défendre autant que possible les petits et les moyens contre les très grands ou trop grands. Mmh. Et c'est vrai que la réglementation ici est l'allié objectif donc de tous ces entrepreneurs, de tous ceux qui veulent créer à nouveau de la valeur. Et je pense que ça va dans le bon sens.
Et ça passe aussi par la défense du travail, Patrice Flichy. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de chauffeurs Uber qui portent plainte contre Uber pour justement se voir reconnu le rapport de dépendance qui existe vis-à-vis de la plateforme.
Oui, parce que sur ces plateformes, on a deux types de travailleurs. On a des gens pour lesquels c'est un travail en plus. Hein. Si on prend Uber aux États-Unis, une partie des chauffeurs sont des chauffeurs de taxi qui font ça en plus. Et puis, au contraire, en France, on a une réglementation qui, finalement, a amené les chauffeurs de VTC à faire ça à plein temps. Donc, finalement, ils ont une situation de travail qui se rapproche beaucoup du salariat. Alors, soit ils peuvent jouer sur la concurrence entre les plateformes, hein, mais si on prend les livreurs à vélo, eux, au contraire, ils sont liés à une plateforme, puisque très souvent, ils ont un brassard avec le nom de leur livreur. Donc, finalement, ils sont extrêmement proches de la situation du salariat et un certain nombre d'entre eux, se sont lancés dans des procès, hein, et les dernières décisions en France, il y a un an, de la Cour de cassation, semblent exprimer l'idée que la requalification s'imposerait. Alors, il y a débat entre les différents pays, mais on comprend bien que, finalement, plus ces activités se professionnalisent, plus elles se développent à plein temps, plus la question du rapport au salariat devient absolument centrale.
Ce qu'on comprend bien, c'est que sur le plan social comme sur le plan fiscal, ce qu'il faudrait, c'est une régulation au niveau mondial. Jean-Rémy Gratadour, je pense en particulier à la taxe GAFA de 3% sur le chiffre d'affaires des Google, Amazon, Facebook et Apple, qui a été adopté par le gouvernement français en juillet 2019. Trump menace de mettre en place des mesures de rétorsion. On voit qu'on est tout de même assez loin d'une entente mondiale sur ces questions, à l'heure où par ailleurs l'OMC traverse une période compliquée, puisque la nomination de juges dans cet organe de règlement des différends de l'OMC est paralysée par les États-Unis. Donc à l'heure où l'OMC va si mal, Jean-Rémy Gratadour, est-ce qu'on peut encore espérer éventuellement une régulation mondiale de ce marché du e-commerce?
Et oui, parce que, comme je l'évoquais un peu plus tôt, finalement, les trois grandes zones commerciales que sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, finalement, sont de taille comparable. Et on voit bien que s'exacerbent les tensions parce que, on va dire, on est à un moment un petit peu clé où va se décider finalement quelle est la zone qui prend le plus d'importance et les jeux ne sont pas faits. Et l'Europe a une force incroyable et d'être un marché intérieur commun et de ne pas encore avoir tiré tout l'enseignement de la puissance que peut lui apporter un marché mieux unifié qui structure davantage ces nouvelles formes de commerce digitalisées et qui vont lui permettre de peser à l'échelle internationale. Et je pense que ces évolutions réglementaires vont passer par cette concertation à une échelle géographique, à l'échelle d'une zone géographique, plutôt que simplement à une échelle nationale.
L'Union européenne pourrait permettre une certaine harmonie réglementaire, une première harmonie réglementaire fiscale et sociale. On a un petit peu du mal à y croire, Patrice Flichy, vu la complexité actuelle de l'harmonisation fiscale et sociale en Europe.
Oui, d'autant plus qu'il y a un autre point qu'on n'a pas encore évoqué, hein, qu'on avait tout petit peu évoqué au début de l'émission en parlant de Google, c'est la constitution de monopoles considérables. Hein. Et donc, la question finalement d'action anti-monopole est certainement une des évolutions importantes. Hein. Et je dirais peut-être que l'Europe, dans ce domaine, quand on voit les mesures qui ont été lancées contre Google, est probablement en avance par rapport aux États-Unis. Et on pourrait imaginer hein, que c'est peut-être à Bruxelles plus qu'à Washington qu'un certain nombre d'évolutions pourraient se mettre en place.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. Merci. Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Quasi unanimité syndicale contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Loin de rassurer, les annonces du Premier ministre hier ont renforcé les doutes sur ses intentions.
Et oui, malgré certaines garanties hein, qui ont été données, notamment sur des pensions minimales à 1000 euros et à 80% du SMIC, 85% du SMIC minimum, eh bien l'ensemble du monde syndical rejette le projet avec plus ou moins d'indignation à cause de la suppression des régimes spéciaux bien sûr, mais aussi à cause de l'introduction d'un âge pivot avec bonus-malus. La CFDT, jusqu'ici, est favorable à la retraite par points, parle même d'une ligne rouge franchie. En fait, cet âge d'équilibre, hein, comme il a été nommé hier, de 64 ans, a été longuement évoqué ces derniers mois. Le président Macron n'y semblait pas favorable, mais les annonces du Premier ministre, c'est vrai, viennent jeter le doute sur les intentions du gouvernement. S'agit-il de proposer un nouveau système plus juste ou d'en profiter pour assainir les comptes de l'assurance retraite? La question se pose, en tout cas, depuis que le président a affirmé vouloir faire repartir le nouveau système sans déficit. Et la réponse n'est toujours pas trouvée. En tout cas, c'est ce que dit la chercheuse Audrey Rhin, co-auteur d'un rapport sur les retraites pour l'Institut des politiques publiques.
L'inconvénient, c'est que c'est une information qui est donnée à tous, qui est la même, si vous voulez. 64 ans, en réalité, c'est pas le même âge pour tout le monde. Vous avez des gens qui pourraient partir beaucoup plus tôt et qui vont travailler, si vous voulez, jusqu'à 64 ans, c'est pas la peine, d'accord? Donc, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt un taux de remplacement cible. Donc, le taux de remplacement, c'est bien combien représente votre retraite par rapport à votre dernier salaire. Et donc, on voudrait plutôt dire à chacun de façon individuelle à quel âge vous aurez un taux de remplacement de 75%, donc, qui a priori peut vous permettre de maintenir un niveau de vie suffisant. Donc ça, ce serait l'indicateur qui nous semble le plus pertinent. Là, ce qui a été proposé, c'est d'utiliser cet âge pivot dans une phase de transition avant l'introduction du nouveau système, où on veut inciter les gens à partir plus tard. Et comment le gouvernement s'y prend? Il présente cet âge pivot de 64 ans en disant « si vous partez plus tôt, vous aurez une décote ». Sauf que cet ajustement, il est bien plus que proportionnel à l'ajustement qui serait préconisé pour prendre en compte l'allongement de l'espérance de vie. C'est pour ça qu'on l'apparente vraiment à une mesure destinée à faire des économies, en fait. Du coup, le problème, c'est bien de mélanger cette réforme systémique à des mesures d'économie budgétaire via une réforme paramétrique, comme ça a été présenté hier.
Jusqu'ici, les retraites ont occupé 14% du PIB. Édouard Philippe a pourtant assuré qu'il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu et il vante toujours une réforme de justice.
Alors oui, il faut quand même en rappeler les grandes lignes. Un système à points pour tous, des points indexés sur les salaires et non plus sur l'inflation qui augmente, elle, moins vite. Les gagnants seraient en fait les carrières sans grande progression de revenus, au SMIC ou les plus troués, les carrières des femmes avec enfants, les carrières des précaires, ces carrières hachées seraient donc moins pénalisées. Plus de justice, oui, dans un monde du travail plus précaire sans doute, ou plus mobile donc si l'on est optimiste.
On passe aux grèves avec toujours les grèves. Xavier, les conséquences se font sentir dans plusieurs secteurs et le gouvernement prend des mesures de soutien.
C'est ça, des reports de paiement de charges, des suspensions de la taxe à 10 euros sur les contrats courts, des dérogations pour ouvrir le dimanche. C'est ce qu'a décidé le ministère des Finances hier pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, deux des plus directement touchés par les grèves. Comme l'activité des commerces à Paris, les réservations dans l'hôtellerie ont enregistré une plongée de 30 à 40% dès jeudi dernier.
Autre secteur touché par les grèves à Paris, ou plutôt une institution, les deux opéras nationaux.
Oui, les deux opéras Garnier et Bastille qui constituent l'opéra de Paris. Celui-ci a annoncé hier 15 spectacles annulés et un manque à gagner de 2,5 millions d'euros en billetterie depuis le 5 décembre. L'opéra national qui souffre doublement puisque sur un autre plan, les danseurs de l'opéra avaient manifesté jeudi dernier car leur retraite statutaire commence actuellement à 42 ans.
Et pour finir, les banques centrales américaines et européennes en ont-elles fini avec la baisse des taux, Xavier?
En tout cas, ce sont des mesures inhabituellement conventionnelles, c'est ce qu'on pourrait se dire avec les annonces coup sur coup de la Fed hier et de la BCE aujourd'hui, qu'elles n'envisageaient pas de baisser plus encore leurs taux directeurs. Ces taux négatifs pour la BCE, censés soutenir la croissance, sont aussi devenus un des objets les plus polémiques des politiques monétaires cette année. Décision de consensus donc pour la Fed face à Trump et examen réussi pour Christine Lagarde, dont c'était aujourd'hui la première réunion de politique monétaire.
Merci beaucoup, Xavier. On retrouve votre journal de l'écho dès lundi et on peut le réécouter évidemment sur franceculture.fr et en podcast.
Viernes por la noche decidí beber una copa fuera de casa. Me senté en un sitio y ahí estaba él mirándome y yo, ¿qué le pasa? Me dije, ¿esto pa' qué? Los problemas pa' después. El que me quiere enredar y yo no voy a caer. ¿Y esto pa' qué? Los problemas pa' después. El que me quiere enredar.
se quitte avec Sayonara, Dana Guerra et Mike Baya. Merci beaucoup Patrice Flichy et Jean-Rémy Gratadour de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Patrice Flichy, Les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique, paru au Seuil. Demain, on se glissera dans la peau des enseignants qui sont venus grossir les rangs des manifestations contre la réforme des retraites. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.